Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit, Alexandre Lemaire.
Bonsoir, une page d'histoire se tourne. Le dernier compagnon de la Libération est mort. Hubert Germain avait 101 ans. Il était le dernier survivant décoré par De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Le prix du gazole fait mal au portefeuille. Nouveau record battu à la pompe. Le gouvernement demande un geste aux distributeurs. Nous verrons ce qu'il est permis d'espérer. Horizon 2030. Emmanuel Macron y voit une France en pointe sur les technologies. Une industrie forte et décarbonée. Le chef de l'État a annoncé un plan d'investissement à 30 milliards d'euros. Mea culpa de Mgr de Moulin-Beaufort sur le secret de la confession, le président de la conférence des évêques convoqué par Gérald Darmanin. La protection des enfants est la priorité, assure l'archevêque de Reims. Un ministre en exercice au tribunal correctionnel, c'est une première. Alain Griset jugé pour un oubli important dans sa déclaration de patrimoine. Nous reviendrons aussi sur ce drame à Saint-Jean-de-Luz. Trois migrants ont trouvé la mort fauchés ce matin par un train. Le procureur a livré des explications. Enfin, à 22h20, nous serons avec le patron de Soitec, entreprise française de semi-conducteurs qui manque terriblement en ce moment et dont Emmanuel Macron veut doper la production en France.
Europe 1.
Il était donc le dernier compagnon de la Libération encore en vie. Hubert Germain est mort, il avait 101 ans et il était le dernier survivant de la Deuxième Guerre mondiale, décoré par le général de Gaulle. Hubert Germain avait 24 ans au moment du débarquement en Provence en août 1944. Il y a deux ans, il s'en était souvenu au micro d'Europe 1.
Moi j'étais tendu, tous nous étions tendus, l'esprit comme des cordes de piano. Parce qu'il fallait débarquer, il fallait démolir tout ce qu'on avait devant nous. J'ai fait 10 mètres sur la plage. Et au bout de 10 mètres, mes jambes m'ont perdu. Je suis tombé à genoux. Et j'ai pleuré. Pas longtemps. Un ou deux sanglots dans la gorge. On retrouvait des choses aussi bêtes que le chant des grillons dans la nuit. Et tout d'un coup, on s'est dit, ça y est, c'est la France. J'y suis.
Et voilà pour ce témoignage poignant d'Hubert Germain. À la première minute, il avait refusé la défaite de juin 40 face à l'Allemagne nazie lors d'Autriche. Il avait aussitôt rejoint la résistance.
Oui, il rejoint le général de Gaulle en Angleterre une semaine après l'appel du 18 juin 40. Hubert Germain refuse la défaite de la France et plutôt que de passer son examen pour entrer à l'école navale de Bordeaux, il choisit de se battre. Il embarque donc pour l'Angleterre pour rejoindre le général de Gaulle qui, à l'été 40, lui dira les yeux dans les yeux « Je vais avoir besoin de vous ». Le voilà engagé au sein des forces françaises libres. Quatre ans plus tard, en août 44, c'est le débarquement en Provence. Il retrouve sa famille installée dans le sud, à Grasse, mais sa mère, qui ne l'a pas vu depuis quatre ans, ne le reconnaît pas. Alors plus de 15 ans après la guerre, en 62, Hubert Germain devient député de Paris, puis ministre des PTT dans les années 70. Son corps rejoindra donc dans un mois la crypte du Mont-Valérien. Rien. Cela fait plus de 75 ans que là-bas, un caveau attend le dernier des compagnons.
Merci Laure d'Autriche. Et pour marquer cette page d'histoire qui se tourne, c'est Emmanuel Macron qui présidera la cérémonie d'inhumation d'Hubert Germain. Ce sera à l'occasion du 11 novembre à l'Arc de Triomphe et au Mont Valérien. Nom de baptême, France 2030. Le chef de l'État a détaillé ce matin un plan d'investissement à 30 milliards d'euros. Emmanuel Macron veut redonner à la France le leadership dans des secteurs de pointe. Alors 30 milliards, pourquoi faire, Carole Ferry ?
Eh bien 30 milliards pour faire émerger des champions de l'industrie française d'ici 2030. Avec une ligne directrice, mieux produire et mieux vivre. Alors Emmanuel Macron a égrené les secteurs prioritaires. Numéro 1, l'énergie, justement, 8 milliards au total, notamment pour le nucléaire et les futurs SMR, ces mini-réacteurs qui n'existent pour le moment que sur le papier. Le chef de l'État veut également que la France devienne un leader de l'hydrogène vert. Il prévoit par ailleurs 4 milliards d'euros d'investissement dans de nouveaux moyens de transport pour produire un avion européen bas carbone, mais également 2 millions de véhicules électriques et hybrides en 2030. Et sur ce point, il en appelle aux constructeurs français pour réussir le pari.
Tout ça ne marche que s'il y a une vraie stratégie coopérative, en particulier de nos grands constructeurs. Si les grands constructeurs français ne jouent pas le jeu, je le dis ici parce qu'ils ont leur part dans cette affaire, nous ne réussirons pas cette partie. Ce n'est pas qu'une politique de l'État. Ça ne marche que s'ils ont une stratégie d'investissement sur le tissu productif français, d'achat à l'égard de leurs sous-traitants et d'être beaucoup plus coopératifs.
Carole Ferry, Emmanuel Macron veut aussi investir dans le mieux vivre.
Effectivement, alors là, ce sont des investissements prévus dans l'alimentation, l'agriculture bas carbone par exemple, ou les solutions qui utilisent moins de pesticides. Autre volet, la santé, 3 milliards pour inventer notamment 20 nouveaux biomédicaments. Enfin, ce plan prévoit 5 milliards pour les composants électroniques afin de sécuriser notre approvisionnement. Alors comment ces 30 milliards vont être distribués? Quel sera le guichet? Eh bien, le chef de l'État se laisse jusqu'à la fin de l'année pour réfléchir à des solutions qu'il souhaiterait simples et rapides.
Merci Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Il ne vous a jamais coûté aussi cher de faire le plein de gazole. Plus de 1,53€ à la pompe en moyenne la semaine dernière. Ce sont les chiffres du ministère de la Transition écologique. C'est plus encore que ce qui avait conduit à la crise des gilets jaunes en 2018. Écoutez donc comment ces deux automobilistes strasbourgeois essaient de contourner, tant bien que mal, la flambée des prix.
Bah là, après le Covid, c'était plus à, allez, je dirais 45 et 50€ le plein. Là, je tends aux alentours des 60-70€. Du coup, maintenant, j'utilise la moto parce que déplacement plus rapide, consommation plus basse, mais ça revient tout aussi cher.
J'essaie de faire attention à ma conduite. J'essaie de passer sur de la conduite économique ou écologique, je ne sais pas trop comment on appelle ça, mais enfin voilà. J'essaie de m'adapter au maximum.
Un témoignage recueilli à Strasbourg par Mélina Fachin devant les députés. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a demandé un geste aux distributeurs de carburant.
Nous ne laisserons pas nos concitoyens sans solution face à cette hausse des prix du carburant, en particulier les nombreux Françaises et Français qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler tous les jours. Nous allons d'abord, dans un premier temps, nous assurer que les distributeurs jouent le jeu et qu'aucun d'entre eux ne profite de la situation pour accroître les prix à la pompe de manière excessive. Je demande également aux distributeurs de faire un geste dans cette période difficile en réduisant leurs marges et je me réserve bien sûr la possibilité de les réunir en cas de besoin.
Alors, on a entendu le souhait de Barbara Pompili que les distributeurs jouent le jeu. Si c'est bien le cas, Maud Descamps, est-ce qu'on va avoir le prix baissé à la pompe ?
Eh bien, concrètement, aujourd'hui, la marge qui est faite par les distributeurs est environ d'un à deux centimes par litre de carburant. Donc, si les distributeurs entendaient cet appel lancé par la ministre, vous voyez bien que la baisse ne serait pas très importante, hein, entre 40 et 80 centimes sur un plein d'essence ou de gasoil. Mais de toute façon, les distributeurs avec qui j'ai échangé cet après-midi sont très clairs. Pour le moment, il est hors de question de baisser les prix, comme l'explique Francis Pousse, président des propriétaires exploitants de stations-service.
C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Vous avez sur le gasoil 66 centimes de TICPE, donc ça c'est une taxe fixe. Se rajoute à ça la TVA, donc on peut estimer qu'à aujourd'hui, un litre de gasoil rapporte entre 80 et 90 centimes à l'État. C'est la solution. Après, je comprends que l'équation n'est pas facile, mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas venir de chez nous.
Le gouvernement n'a qu'à jouer sur les taxes. Voilà ce que répondent donc les distributeurs. La ministre de la Transition écologique a indiqué cet après-midi qu'elle pourrait réunir ses distributeurs de carburant dans les prochains jours.
Merci Maud Descamps. Europe 1, vous révélez dès ce matin le baromètre annuel du médiateur de l'énergie. On y lit très clairement les conséquences de l'explosion du coût du chauffage. Un Français sur cinq a souffert du froid cette année à la maison, tandis que 6 Français sur 10 disent baisser le thermostat pour réduire la facture. Les jeunes sont en première ligne, comme Célia, étudiante et boursière à Toulouse. Célia qui redoute le moment où elle devra allumer le chauffage dans son studio.
Je préfère éviter d'utiliser le chauffage pour pas avoir à la fin du mois une facture importante que je pourrais pas réussir à gérer. Du coup, j'attends le dernier moment pour allumer mon chauffage. Je l'allume pas avant, je l'allume vraiment quand il fait vraiment très froid. Milieu novembre, voire début décembre. Quand je mets des pulls, je mets des t-shirts à manches longues pour dormir, des jogging, des vestes avant d'aller dormir. Je rajoute une couverture ou des plaids. Au début, c'est difficile de pas allumer son chauffage, mais je préfère me priver de ça pour pouvoir acheter à manger à la fin du mois plutôt que dépenser trop d'argent en chauffage et mettre mes parents en galère.
Voilà, Célia, une jeune étudiante obligée de se priver de chauffage pour joindre les deux bouts. Elle répondait à Océane Théard.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Le président de la Conférence des évêques rétropédale après sa convocation cet après-midi devant Gérald Darmanin, monseigneur de Moulins-Beaufort, considérait la semaine dernière que le secret de la confession l'emportait sur les lois de la République. Entre-temps, le message de Beauvau est passé. Il reconnaît maintenant une formulation maladroite et assure que la protection des enfants est la priorité, Virginie Riva.
Oui, changement de ton, puisque Mgr Éric de Moulin-Beaufort demande pardon aux victimes pour cette polémique qui a pris le pas sur l'accueil du contenu du rapport Sauvé, dit-il. Et surtout, il rappelle que les croyants doivent respecter les lois de leur pays, ajoutant qu'un travail est nécessaire pour concilier le secret de la confession et la protection des enfants. Sur ce point, Gérald Darmanin, interrogé juste après leur échange à l'Assemblée nationale, a été assez ferme.
Le secret de la confession est, depuis quasiment 200 ans dans notre droit, connu comme un secret professionnel, au même titre que les médecins ou les avocats. Il souffre cependant d'exceptions lorsqu'il concerne notamment les crimes commis pour des enfants de moins de 15 ans, et qu'il est évident qu'il ne peut y avoir aucune sanction contre tout religieux ou toute personne qui a connaissance de faits d'abus sexuels contre des enfants, et que ceux-ci doivent le porter pour la protection des enfants à la justice de notre pays.
Une source à la conférence des évêques nous dit que l'idée partagée par les évêques comme par le ministre, c'est désormais de revenir au cœur même du rapport Sauvé pour apporter des réponses au plus vite.
Virginie Riva, un ministre en exercice jugé devant le tribunal correctionnel. C'est une première. Alain Griset comparaissait aujourd'hui pour sa déclaration de patrimoine incomplète. Le ministre des PME épinglé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il a omis de déclarer 171 000 euros. Caroline Baudry, vous étiez à l'audience. Alain Griset, Caroline, plaide la bonne foi.
Et oui, le ministre évoque la maladresse à de nombreuses reprises. Maladresse quand il place à l'été 2019 sur son propre compte PEA, plan d'épargne en action, les 130 000 euros confiés par la Confédération nationale de l'artisanat des métiers du Nord pour les faire fructifier. Maladresse encore quand il décide de ne pas le mentionner sur sa première déclaration de patrimoine lorsqu'il est nommé ministre un an plus tard. Mais maladresse ne veut pas dire malhonnêteté, assure Alain Griset. J'ai de A jusqu'à Z essayé d'être honnête. La présidente évoque la difficulté pour un banquier de distinguer ses fonds propres et cet argent sur un même compte. Silence dans la salle. J'engagerai une procédure contre la banque pour défaut de conseil et incapacité, rétorque le ministre sur la défensive. Défense qui n'a pas semblé convaincre le procureur de la République. Il requiert 10 à 12 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Une peine d'inéligibilité de 3 ans est également requise, entraînant automatiquement l'interdiction d'exercer une fonction publique. Le tribunal rendra sa décision le 8 décembre prochain.
Caroline Baudry. Trois lycéens, demain devant la justice, ils sont liés à l'agression filmée d'une enseignante en pleine classe vendredi dernier à Comblaville en Seine-et-Marne. L'agresseur sera jugé en comparution immédiate pour violence. Les deux autres sont mineurs, accusés d'avoir filmé et diffusé la scène sur les réseaux sociaux. Ils seront présentés à un juge des enfants. On revient maintenant sur ce drame qui s'est produit ce matin près de la gare de Saint-Jean-de-Luz. Trois migrants sont morts percutés par un train TER, un quatrième grièvement blessé. Selon le procureur de Bayonne, les victimes ont été fauchées dans un secteur du réseau sans éclairage. Vous vous êtes rendu sur place, Benjamin Péter.
Oui, ces personnes, dont une seule a pour le moment été identifiée et qui seraient toutes de nationalité algérienne, d'après les documents administratifs qui ont été retrouvés sur place, étaient apparemment couchées sur la voie. L'hypothèse privilégiée est qu'ils cherchaient à se reposer dans un endroit discret. Et d'après le procureur Jérôme Bourrier, le conducteur du train ne les a vus qu'au tout dernier moment.
Il a évidemment appuyé sur le bouton d'alerte qui permet un freinage d'urgence du train, mais que ce train s'est arrêté au bout de 310 mètres et que, en tout état de cause, cette manœuvre d'urgence ne permettait pas d'éviter l'impact avec ces différentes victimes.
Pour Peyo Dufaux, qui est cheminot et adjoint à la mairie de Cibourg, les migrants sont nombreux à circuler sur cette voie entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz. La faute, selon lui, aux trop nombreux contrôles à la frontière.
Nous, on voit ça tous les jours. Les collègues qui travaillent à Hendaye, des migrants qui traversent par la voie ferrée, on en voit tous les jours. Les migrants, depuis pas mal de mois, voire des années maintenant, ont recours à tous les passages possibles. Ils sont venus d'Afrique jusqu'ici, ils ne vont pas s'arrêter à cause des policiers.
Voilà, et demain, en fin d'après-midi, les associations d'aide aux migrants ont décidé d'organiser une manifestation de soutien devant la gare de Cibourg-Saint-Jean-de-Luz.
Benjamin Péter à Saint-Jean-de-Luz pour Europe 1. Il nous promet une révolution dans la compréhension de nos origines. Le télescope spatial James Webb a été livré à la base de Kourou en Guyane. Décollage le 18 décembre en fusée Ariane. Il sera déployé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Ce télescope sera capable de déceler une vie extraterrestre, si elle existe, en observant les exoplanètes. Elle court pour son fils et pour toutes les femmes, pour montrer aussi que santé mentale et physique sont étroitement liées. L'ancienne athlète américaine Shalane Flanagan s'est fixé un défi complètement fou. Écoutez bien, En moins de 2 mois, elle veut courir les 6 marathons les plus prestigieux du monde à cheval sur 2 continents. Et le plus fou dans cette histoire, Jean-François Pérez, eh bien, c'est qu'elle est bien partie.
Oui, c'est une performance à couper le souffle, sans mauvais jeu de mots, qu'est en train d'accomplir cette Américaine de 40 ans. Alors certes, Shalane Flanahan n'est pas une inconnue dans le milieu, médaillée olympique à Pékin en 2008, ancienne vainqueur du marathon de New York. Il y a 2 ans, elle avait dû mettre un terme à sa carrière, 2 opérations au genou, l'adoption d'un enfant, une nouvelle vie s'annonçait. Mais la championne a été rattrapée par un mal insidieux, la dépression, celle qui touche parfois les anciens sportifs de haut niveau privés de leur passion. Alors Flanahan a repris l'entraînement et la semaine passée, elle a entamé ce défi invraisemblable, les 6 plus grandes courses du calendrier en 7 semaines et en moins de 3 heures à chaque fois. Après Berlin et Londres, l'Américaine a réussi un exploit prodigieux ce week-end sur ses terres. Les 2 marathons de Chicago et de Boston en 24 heures chrono. Restent Portland et New York le 7 novembre pour boucler les 253 km. Cela fait 6 marathons, les plus époustouflants de ces dernières années.
Merci Jean-François, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est difficile de ne pas culpabiliser quand on entend cela et qu'on est bien calé dans son fauteuil. Le temps pour ce mercredi.
Vous rêvez de ciel bleu, de soleil, de chaleur. Aux Seychelles, il fait 29 degrés toute l'année. Et chez vous, il fait combien? Les Seychelles vous présentent la météo.
Et demain, Marlène Duret, bien calée, vous aussi dans votre fauteuil.
Oui.
Surprise, attention, c'est dans le sud qu'il fera le plus beau.
C'est pas très original, mais effectivement, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Aquitaine, et allez, on pousse même jusqu'aux Charentes. Il fera beau dès l'aube, si on met de côté évidemment quelques brouillards matinaux dans le sud Aquitaine. Ce beau temps va gagner du terrain au fil des heures en direction du Limousin, en continuant vers la Touraine, la région de Châteauroux, l'ensemble du Poitou-Charentes et la Vendée. Voilà, Mistral et Tramontane resteront sensibles, des petites averses peuvent se produire dans les Alpes du Sud l'après-midi et en Corse. Voilà, ça c'était le meilleur. Ailleurs...
J'ai peur.
Non, ça va, ça va. Nuages et soleil vont se partager le ciel après une matinée souvent nuageuse. Vous savez qu'en automne, lorsque le temps est anticyclonique, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous. Il faut attendre un petit peu. Donc demain, on n'y échappe pas. En début de journée, des grisailles ou des brouillards sur une moitié nord du pays, en Auvergne et dans le nord de Rhône-Alpes. Les températures, elles seront comprises entre 12 degrés à Baccarat en Meurthe-et-Moselle et 23 à Ajaccio avec 16 du côté de Paris.
Merci Marlène, on se retrouve à minuit pour un dernier point météo avec vous. Dans un instant, c'est Top à Wall Street avec Didier Hameau, l'invité éco à 22h20, le patron de Soitec, entreprise française spécialisée dans les semi-conducteurs. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Nuit, informez-vous avec Alexandre Lemaire sur Europe 1.
Il est 22h18, c'est Top à Wall Street, Didier Hameau, bonsoir.
Bonsoir Alexandre.
Et Wall Street qui reste sur la défensive sur fond de hausse persistante des prix de l'énergie.
Oui, beaucoup de prudence encore à Wall Street alors que les cours du pétrole, oui, restent au perché, hein, toujours à plus de $80 le baril au sommet depuis 7 ans. Le Dow Jones est en baisse ce soir de 0,34%, 34 378 points. Le Nasdaq, moins 0,14%. 14 466 points. Le marché attend les premiers résultats trimestriels des groupes cotés. Ce sera donc dans les jours suivants qui pourraient être marqués, des résultats qui pourraient être marqués par les premiers effets inflationnistes des matières premières. Ça inquiète quand même un petit peu le marché. En attendant, donc, ça baisse du côté d'Apple. Bon, petite baisse, à moins 0,9%, 141,50 $. Microsoft, moins 0,4%. Facebook, moins 0,5%. Twitter, moins 1%. Amazon est stable. Il y a quand même une hausse. C'est Tesla, hein, qui monte encore d'1,7%. 805,70 $. Le groupe Tesla a vendu 56 000 voitures en Chine au mois de septembre. Malgré les problèmes d'approvisionnement, c'est mieux que prévu et ça fait monter la valeur Tesla encore ce soir d'1,7%. Sur les devises, l'euro reste discuté à 1,1530 face au dollar.
La bourse de Paris, Didier, a aussi terminé en légère baisse ce soir.
Oui, moins 0,34%. Une petite baisse, 6548 points. Ce sont les valeurs pétrolières qui avaient beaucoup progressé, qui ont soufflé. Vallourec a reperdu 6%. Technip, moins 5%. CGG, moins 4%. Total, moins 1% à 43,70 €. Des prises de bénéfices, donc. Idem sur les valeurs aéronautiques. Là aussi, on marque une pause avec Safran, moins 3%. Figeac Aero, moins 3%. Thales, moins 1,5%. Air France, moins 1%. Airbus perd 0,5%. Le groupe a livré 40 appareils au mois de septembre, tout comme au mois d'août. Ça ne change pas. Airbus, moins 0,5% ce soir à la clôture.
Et exception du jour, le titre McPhy s'envole de 16%.
Oui, une très forte hausse, hein, 19,20 €. Le spécialiste des équipements de production et de stockage d'hydrogène a profité des annonces d'Emmanuel Macron ce midi, favorable au développement de l'hydrogène en France, dans le cadre du plan France 2030. McPhy, ce soir, s'envole de 16% à la clôture. Les autres places financières sont en baisse, comme à Paris, -0,3% le DAX à Francfort, -0,04% Bruxelles, -0,2% à Londres. On rappelle le CAC 40 en baisse de 0,34%, 6548 points.
Merci Didier Hamo de Boursier.com. Vous venez de nous livrer un petit indice, Didier, mais que pensent les industriels du plan d'investissement annoncé ce matin par Emmanuel Macron, en particulier sur les semi-conducteurs dont l'industrie manque terriblement, vous le savez, à cause d'une pénurie mondiale. L'idée du président est de rendre à la France son autonomie dans la production de ces composants électroniques qui ont colonisé nos quotidiens, smartphones et voitures. L'invité éco ce soir, Paul Boudre, le directeur général de Soitec, une pépite française spécialisée dans les semi-conducteurs. Il répond à Emmanuel Duteil.
Bonsoir Paul Boudre.
Bonsoir, bonsoir Emmanuel.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Soitec. Alors si je dis ça comme ça, je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs doivent se dire « Mais c'est quoi cette entreprise ?» Eh bien, on peut les inviter peut-être à ouvrir leur téléphone portable. Et là, on est sûr d'y trouver un composant made in France, made in Soitec, puisque c'est votre métier, notamment les semi-conducteurs, qui est un point extrêmement important de votre activité que vous réalisez en France. On a voulu être en ligne avec vous ce soir parce que le président de la République, on l'a entendu à l'instant dans le journal, a présenté son fameux grand plan d'investissement, 30 milliards sur la table pour financer les technologies de l'avenir, dont la vôtre. C'est un plan utile avec votre point de vue de chef d'entreprise, de directeur général de Soitec ?
C'est un plan extrêmement utile, mais ce qui est très très important, je pense, et il faut peut-être commencer par là, je dirais que ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre un président français qui comprend les enjeux, et notamment les enjeux du semi-conducteur. C'est fondamental aujourd'hui de prendre la mesure stratégique de ce que représente le semi-conducteur dans l'ère dans laquelle nous rentrons. Donc fondamentalement, c'est important, c'est stratégique, et je pense que le président ce soir a mis le semi-conducteur, comme d'autres bien sûr enjeux forts pour la France, au bon niveau stratégique.
Alors, vous le dites, c'est très important, on l'a dit aussi, il y a 30 milliards d'ici à 2030 qui devraient être mis sur la table. Vous, patron de Soitec, quand est-ce que vous avez de l'argent pour vous développer ?
On est déjà en discussion, bien sûr, avec la France et la région pour des plans qui sont déjà engagés depuis des mois et des trimestres pour savoir comment on va travailler ensemble sur les années qui viennent. Donc ce plan, en fait, pour moi, est une accélération et en tout cas une confirmation des enjeux que nous pouvons mettre en œuvre sur le territoire.
Alors, c'est une confirmation, mais malgré tout, ça a vocation à placer la France dans la compétition mondiale de ce qui sera indispensable d'un point de vue technologique dans tous les secteurs. Ça va aussi bien de l'agriculture au semi-conducteur. On sait qu'en France, on a parfois de bonnes idées, mais l'application n'est pas toujours là. Vous êtes confiant ce coup-ci ?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce que vous venez de partager, parce que en France, nous avons des leaders mondiaux, nous avons des grandes entreprises qui, dans le monde du semi-conducteur, ont un rôle, au niveau de la planète. Vous avez nommé Soitec, et j'en suis très heureux.
Mais on pourrait citer ST Microélectronics, qui a ses usines pas très loin de chez vous, dans le sud-est également de la France.
On pourrait citer ST Microélectronique, on pourrait aussi citer des équipementiers, des partenaires, des ETI qui sont avec nous et qui sont engagés sur des challenges qui sont des challenges à l'échelle mondiale. Notre partenaire, un de nos partenaires, et je pense que c'est une des forces aussi dans ce plan et dans l'ambition que le président porte ce soir, un de nos partenaires essentiels, notamment dans l'innovation, est la plateforme du CEA Leti, qui est un des acteurs incontournables aujourd'hui dans le développement des semi-conducteurs. Et ça également, c'est quelque chose extrêmement fort, cet accord public-privé pour l'accélération et le développement de notre ambition.
Le CEA qui est déjà un des gros partenaires de Soitec. Mais pour qu'on comprenne bien, pour que nos auditeurs, pour que moi je comprenne bien, d'après vous, ce plan, qu'est-ce qui va vous permettre de faire que vous n'auriez pas pu faire sinon ?
L'enjeu est primordial. Il va nous permettre de définir la route qui va amener les entreprises françaises et bien sûr l'ensemble des entreprises européennes derrière à définir des tailles de puces de plus en plus petites, comme vous le savez, c'est l'enjeu de notre industrie, mais de les fabriquer en France et de les fabriquer aussi sur le sol européen et de le faire en collaboration avec l'ensemble des partenaires que nous avons partout dans le monde.
Typiquement pour un donc, groupe pour comme vous, vous vous dites que vous allez pouvoir accélérer sur votre technologie, rester dans la compétition mondiale, et cette technologie que vous allez inventer, vous allez pouvoir les fabriquer en France, que vous n'auriez pas pu obligatoirement faire sans un tel plan. C'est ça l'idée, Paul Boudre ?
C'est bien sûr l'idée fondamentale parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'usine en Europe qui est capable de définir des lignes d'une dimension de taille inférieure à 22 nanomètres. Alors, je suis désolé d'employer ce terme technique, mais vous savez que cette course à la miniaturisation, eh bien, aujourd'hui en Europe, nous sommes bloqués aux 22 nanomètres. En France, nous avons des usines qui vont jusqu'aux 28 nanomètres. Il faut définir la route qui nous amène aux 10 nanomètres. Cet nouvel espace, je dirais, de capacité que l'on peut construire va nous donner accès en France à des marchés de type automobile, de type 5G et de type intelligence artificielle embarquée. Et ça, sur les 10 prochaines années, c'est vraiment l'axe qui va nous permettre de passer d'une part de 10% de manufacturing en France et en Europe au niveau de 20% tel que nous en avons l'ambition. Donc c'est très concret et le chemin quelque part pour aller sur ces 20% est entre nos mains.
Est entre nos mains et si les financements arrivent effectivement correctement. Une dernière question d'actualité, on parle beaucoup de la pénurie de semi-conducteurs en ce moment. Vous êtes en ligne avec nous et je vous en remercie depuis Séoul en ce moment même. Qu'en est-il de cette pénurie ? Est-ce qu'on est enfin en train de voir le bout du tunnel ?
Alors, vous savez, le choc que nous vivons aujourd'hui sur cette industrie, c'est quelque part un choc post-Covid. Il se trouve qu'après la pandémie, eh bien, un certain nombre de secteurs avaient stoppé quelque part des investissements long terme, et notamment l'automobile. Souvenez-vous, il y a 18 mois, les usines d'automobile sont arrêtées. Et donc, ce retour de ces secteurs-là avec une vision totalement différente de celle qu'on avait il y a 18 mois, perturbe ces capacités qui ne sont pas aujourd'hui installées.
Mais quand est-ce que ça va revenir à la normale ?
Je dirais que ça s'améliore tous les trimestres, mais il va falloir 18 mois encore pour revenir à quelque chose d'acceptable.
Eh bien, merci beaucoup pour tous ces détails. C'était Paul Boudre, le directeur général de Soitec. Ensemble, on a pu parler de ce plan d'investissement présenté aujourd'hui par Emmanuel Macron. Nous, on se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci à vous Emmanuel Duteil, on vous retrouve aussi demain à 13h pour La France bouge sur Europe 1 avec Elisabeth Assayag. Vous parlerez tourisme demain puisque, on le sait, le secteur reprend des couleurs et vous serez justement avec l'une des patronnes du groupe Accor, l'un des plus gros acteurs mondiaux du tourisme.
Europe Nuit.
Alexandre Lemaire vous informe sur Europe 1.
Coup d'œil sur les unes de vos quotidiens. Demain matin, mercredi, le plan France 2030 présenté ce matin par Emmanuel Macron se taille une belle part à la une de vos journaux. Le pari industriel de Macron à la une des Échos. Le plan pour moderniser l'industrie avec comme fil rouge, note le Figaro, l'innovation et la décarbonation. 30 milliards d'euros à investir dans les secteurs d'avenir pour la décennie qui s'ouvre. 20 minutes s'amuse un peu pour sa part avec son gros titre. Macron à fond dans la campagne. Fond avec un S comme fonds d'investissement, bien sûr. Le président qui a donc présenté ce mardi ces 30 milliards d'euros d'investissement des dépenses électoralistes, dénonce l'opposition. Ouest France préfère pour sa part un sujet qui fâche alors que le prix des carburants s'envole. La hausse va-t-elle durer, s'interroge le quotidien. La reprise économique est là, elle stimule la demande, ce qui fait monter les prix. Or, les pays exportateurs de pétrole, eux, limitent la production. La série phénomène Squid Game à la une de Libé. Série fais-moi peur, le phénomène coréen suscite un engouement mondial, ce qui révèle, analyse Libé, les affres d'une société post-Covid angoissée, avide de trash, de complotisme et de critique sociale. Enfin, le Parisien vous propose un spécial immobilier. Pourquoi il faut acheter maintenant un supplément 8 pages spécial consacré particulièrement à la recherche d'une maison autour de Paris, si c'est là votre lieu de résidence ou de destination. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Olivier Delacroix nous a rejoint. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Alexandre.
Prêt pour votre libre antenne.
Prêt, avec un petit chat dans la gorge.
Ah car, oui, je vois ça, j'entends ça.
Mais prêt.
Prêt, de toute façon.
Comme d'habitude, on se retrouve tout à l'heure à 23h pour un point sur l'info. À tout à l'heure.